Gilda du réseau pour l'abolition des transports payants de Paris, qui parodie le nom du RATP, quoi, de la RATP.
Voilà, donc c'est le réseau pour l'abolition des transports payants. C'est un réseau qui est récent.
Ouais, ça dépend quelle échelle de temps on prend, mais qui est récent. Il s'est constitué en gros en avril 2001. Mmh. Et donc, il a commencé par déjà la rencontre des militants, etc. Je pense qu'il y a eu tout un temps de découverte de chacun, etc. C'était des organisations qui se rencontraient. Et après, il y a eu une volonté de mise en action de la revendication des transports gratuits, qui s'est fait en termes d'action par ce qu'on appelle des actions portes ouvertes. Donc, en fait, je saute une étape. En fait, la rencontre, elle s'est faite aussi, je vais reprendre celle-là, autour d'un ticket, d'un petit ticket zéro franc, zéro fraude. Donc, qui parodie un peu un ticket de transport de la RATP. Et ça, je pense que c'est vraiment le réseau pour l'abolition des transports payants n'aurait jamais commencé sans ça, parce que ça a été vraiment la chose qui nous a mis en relation avec les usagers, qui a fait que les usagers s'intéressent à nous, qu'on a commencé à avoir des contacts, qu'on a commencé à discuter, etc. Et montrer qu'à partir de ce ticket, en fait, on provoquait des excuses finalement pour commencer à discuter. Parce qu'on aurait pu distribuer un tract comme ça, je pense que les gens ne se seraient pas obligatoirement intéressés, ils auraient vu un tract parmi d'autres, mais le ticket était une excuse, les gens demandent qu'est-ce que c'est. Et de là, justement, il y a des discussions qui peuvent s'entamer, etc. Donc ça a été vraiment la première chose, et je pense que le réseau ou le collectif, on peut l'appeler comme ça, se serait jamais constitué sans ce petit ticket.
Voilà. Donc avant tout, le RATP, c'est un réseau d'individus ou d'organisations?
Aujourd'hui, c'est un réseau d'organisations, c'est-à-dire que c'est différentes organisations qui sont réunies à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on exclut les individus. On dit que les individus n'ont pas leur place au RATP, ils ont leur place. C'est-à-dire qu'il y a différentes organisations qui envoient des gens à limite différents aux réunions, etc., et qui représentent aussi la vie d'une organisation. Et chaque personne n'arrive pas en tant qu'individu. C'est-à-dire qu'après, il y a des retombées, c'est-à-dire que les personnes qui viennent aux réunions aussi réfléchissent à l'intérieur de leur organisation, à ce que doit être leur ATP, etc., comment ça peut évoluer, quels sont les arguments, etc. Donc, c'est un réseau d'organisations qui intègre les individus. De toute façon, je pense que les réseaux d'individus ont la même problématique, parce que c'est des individus qui appartiennent souvent à des organisations et qui tiennent aussi comme ça. Donc, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, c'est à peu près la même chose. Après, c'est une volonté aussi de s'appuyer sur un réseau associatif, organisationnel, pour essayer justement de faire en sorte que la lutte devienne collective et s'ancre sur des quartiers ou des lieux, des territoires en quelque sorte.
Donc avant tout, c'est quand même un endroit où il y a un espace où des individus viennent, débattent et essayent de construire quelque chose autour de la question de l'accès au transport. Même s'ils portent très souvent un petit peu l'orientation politique de leur propre organisation sur la question de l'accès au transport.
Après, je pense que justement, on n'a pas... c'est un lieu de débat, comme tu dis, mais c'est aussi un lieu de débat, peut-être des fois non résolu. Hein. Il y a certains débats, on n'a pas le même avis. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse, même de la question, du réseau pour l'abolition des transports payants, mais plus généralement de la revendication des transports gratuits. C'est qu'on remarque qu'il y a différents moyens d'aborder cette question-là. Il y en a, dans les années 70, c'était que de manière écologique. Après, il y en a qui l'abordaient sur l'aspect social, et tous les mouvements de précaires, chômeurs, etc., qui ont mis cette revendication en avant. Après, il y a des syndicats aussi qui portaient la revendication de la gratuité, il y en a qui l'ont encore dans leur statut, etc., donc ça peut être de service public. Après, aujourd'hui, il y a même des réseaux, par exemple, sur les lois de sécurité quotidienne, qui sont attaqués à la loi de sécurité quotidienne, et qui, après, ont mis aussi en avant la question de l'accès gratuit au transport. Donc, nous, je pense que ce qu'on essaye de développer, justement, en faisant participer différentes organisations et différents individus au sein du RATP, c'est justement dire à un moment, on essaye de mettre toute cette diversité, et après, on se met ensemble pour... On aborde cette diversité au travers des transports gratuits, ou la question du transport ou du déplacement. Parce que finalement, le déplacement, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, qui concerne chacun, tout le monde se déplace. Parce que, bon, sauf quelques cas, mais d'handicap, mais tout le monde se déplace, et donc finalement c'est là où on se rend compte que c'est un fil sur lequel on peut aborder diverses questions de la vie quotidienne, et finalement le slogan transport gratuit devient quasiment qu'une excuse pour déconstruire un peu notre société capitaliste.
Donc en pratique, vous avez développé un certain nombre de choses avec différents supports. Tu as parlé du ticket zéro franc zéro fraude, qui était un petit peu le point de départ d'histoire du collectif. Sur le terrain, ça se passe comment?
Ouais.
La rencontre avec les usagers, quelles pratiques vous développez?
Donc, Bon, il y a donc il y a différents outils qu'on met à la disposition. C'est la volonté, quoi, c'est toujours la volonté de dire on peut avoir des discours théoriques, etc. Mais je pense que le RATP il a fait un grand pas. Donc le premier pas c'était justement la construction, l'impression de ce ticket de transport gratuit. Et le deuxième pas ça a été une action porte ouverte qu'on a fait à la station République. C'était la première et qui consistait en fait à bloquer l'accès au portillon par une banderole, pas de manière agressive. D'ouvrir la porte, une porte pour permettre aux gens de rentrer gratuitement dans le réseau de RATP et de leur délivrer un ticket avec un tract bien sûr explicatif, puis aussi bien sûr des discussions qui se formaient. Donc ça a été une mise en action de la gratuité qui reste symbolique hein, parce que il y a beaucoup qui sont équipés d'abonnements, etc. Ça reste quelque chose qui est très symbolique, mais aussi qui nous permet justement d'aller vers les personnes, de confronter nos arguments. Et là, on a fait un grand pas dans la pratique pour instaurer ces formes de gratuité, où là, on a montré finalement aux personnes qu'en s'organisant un tant soit peu collectivement, on pouvait avoir la gratuité à portée de main. Mais on a fait aussi, nous, de manière théorique, un grand pas, c'est-à-dire qu'on a été obligé de confronter nos arguments. On était obligé d'aller rencontrer les gens, de leur dire. Et là, on a des questions auxquelles on n'a pas pensé, une manière d'aborder les problèmes qui n'est pas du tout la même, etc. Et là, il y a une grande richesse. Alors aujourd'hui, on essaye de faire ce type d'action tous les mois, donc en essayant à chaque fois de se réapproprier l'espace de la RATP, de dire comment c'est un service public, ça appartient à tout le monde. Donc, c'est occupons l'espace de la RATP, c'est aux usagers, bon, c'est aussi aux salariés avec lesquels on a de plus en plus de discussions et qui ne prennent pas du tout ça mal, quoi, ça dépend au niveau hiérarchique auquel ils se situent. Mais donc, c'est la réappropriation de l'espace urbain et plus largement des services collectifs.
Au niveau du collectif RATP, vous faites circuler très souvent sur les différents matériels que vous développez au niveau des tracts d'information, voire à petites plaquettes. Vous donnez des chiffres concernant la fraude, le coût du billet, etc. et tout. Est-ce que tu peux nous redonner quelques éléments pour que tout le monde puisse situer un petit peu le fait que la gratuité, c'est possible au niveau de l'accès?
Donc, en fait, on paye 22%, le ticket, il paye 22% des dépenses de la RATP. Et dans ces dépenses, en fait, ils payent en partie l'impression des tickets, les contrôleurs, toute une série de coûts, construire des portes antifraude et tout l'arsenal antifraude, parce qu'on pouvait parler d'arsenal, il y a les caméras, il y a plein de dispositifs qui sont mis en sorte que pour empêcher les personnes de rentrer sans ticket, finalement. Donc, finalement, on se rend compte qu'on paye un ticket pour payer tout cet arsenal de contrôle. Donc, ça, c'est une première chose, on s'est interrogé là-dessus. Ça intéresse beaucoup les usagers qui viennent à nos rencontres, à notre rencontre, etc. et qui, bon, déjà, ça veut savoir que les tickets remboursent que 22% du budget de la RATP, payent que 22% du budget de la RATP. Ça commence à interpeller, quoi, montrer que la plupart du coût est collectivisé, qu'on pourrait collectiviser encore plus. Mais après, nous, ça nous a interrogé, c'est que finalement, quoi, le collectif sans ticket nous a amené aussi beaucoup sur cette réflexion. C'est que finalement, nous, on s'est dit, on va arriver face à des arguments comme ça et y a pas, c'est illogique. Mais pour nous, aujourd'hui, on développe l'idée d'apartheid social. C'est-à-dire l'idée d'apartheid social, c'est dire qu'il y a une construction de la cité aujourd'hui qui est faite. Quoi, même ça pourrait se voir au niveau hexagonal, c'est-à-dire, si on prend l'exemple de Paris pour le RATP, c'est qu'il y a un centre-ville qui est riche, avec toute une zone périphérique urbaine qui est paupérisée, etc., qui est précaire. Et donc l'idée, c'est d'empêcher aussi ces personnes de pouvoir se rencontrer. C'est-à-dire, on cloisonne deux mondes, on fait deux mondes, et un monde riche et un monde avec des développements séparés. Un monde où sans cesse il y a plus de richesse, et puis un autre, il y a légèrement plus de richesse, et encore très difficilement si ça descend pas. Donc voilà, et ça c'est une analyse en plus qui est intéressante, parce qu'elle pourrait se développer au niveau européen, où il y a l'Allemagne d'un côté, et il y aurait la Pologne, où il y a la Yougoslavie, qui sont des zones de guerre, etc. Et puis d'un côté, toute une Europe forteresse qui se construit, et même au niveau mondial, où d'un côté, il y a l'Afrique qui se développe, et de l'autre côté, il y a l'Europe, le monde occidental. Et là, c'est l'entrave à les libertés de circulation. Et de la même manière qu'on empêche des populations du Sud de venir au Nord, on met tout un arsenal pour empêcher les personnes de se déplacer, on entrave la liberté de circulation. De la même manière, sur les villes européennes, on fait la même chose entre les quartiers pauvres et les quartiers riches. Les contrôles, par exemple, les plus fréquents à Paris, on sait très bien que c'est dans les zones de jonction, les zones où les grandes gares, Gare du Nord, Châtelet, c'est les grosses stations, où les populations des quartiers sont susceptibles de venir dans le centre-ville, et là, de déranger une certaine bourgeoisie, une certaine classe riche. Et donc, c'est là où on en arrive à se dire que la gratuité des transports, elle aurait un côté dérangeant. Elle aurait ce côté-là dérangeant, c'est que les gens iraient où ils veulent.
Et quand ils veulent.
Et quand ils veulent. Et
sans contrainte.
Voilà, sans contrainte. Ouais. Et donc, quoi là-dessus, si je peux me permettre d'enchaîner, à Londres, par exemple, on se rend compte que c'est un exemple tout bête qui est donné dans le livre du collectif Sans Ticket, c'est qu'une personne qui arrive en banlieue, il n'y a pas de porte anti-fraude, elle peut passer par-dessus les portillons, rentrer dans le centre, rentrer dans le système de transport, dans le réseau de transport, excusez-moi. Et là, elle arrive en centre-ville. Par contre, en centre-ville, pour sortir, il faut qu'elle valide un ticket. Et il y a des portes anti-fraude, etc. Il y a même des gens qui les empêchent de sauter par-dessus et de rentrer dans le centre-ville. C'est-à-dire qu'ils les laissent à l'intérieur du réseau de transport. Et finalement, la personne, si par contre elle veut aller en banlieue, passer par le centre-ville et ressortir en banlieue, il n'y a pas de problème. Elle va d'un quartier pauvre à un quartier pauvre. Et puis les gens, ils restent dans leur quartier riche, etc. Donc c'est ça, c'est l'évolution de notre société actuelle où il y a une partie des gens qui s'accaparent les richesses et donc qui font en sorte, qui mettent tout un dispositif pour que justement personne vienne les empêcher de s'accaparer ces richesses. Et quoi, c'est le développement séparé. Pour nous, c'est l'apartheid social, c'est comme ça qu'on appelle ça.
Donc le travail qui est fait autour de l'accès libre au transport, ou je ne sais pas quelle formulation fait ta préférence, ou la gratuité d'accès, ou la liberté de circulation, enfin, c'est des notions qui se rejoignent sur certains points, c'est pas toujours les mêmes approches politiques, c'est avant tout une lutte qui doit pouvoir nous amener à plus d'égalité sociale, aussi à une meilleure redistribution des richesses. Je sais pas, ça reste assez central. Tu parles d'apartheid social, tu parles du schéma du développement d'une ville. À Lyon, on retrouve à peu près les mêmes éléments. Le centre est riche, autour, c'est la paupérisation. On cloisonne les gens entre eux. Donc ça reste assez central, la question de la mobilité, pouvoir se déplacer comme on veut.
Ouais.
Parce qu'il y a des chiffres au niveau du réseau RATP qui avaient été donnés, c'est que la majorité des déplacements se font pour aller travailler.
Oui, voilà, c'est ça aussi. C'est après, c'est que les transports ont un rôle productif, c'est qu'il faut assurer quand même la mobilité des ouvriers, des salariés pour qu'ils aillent produire. Et c'est-à-dire que nous, on avait des chiffres qui sont sujets à discussion, mais c'est-à-dire en gros, 83% de nos déplacements servent à les consommer et servent à les produire. Donc finalement. On pourrait revenir sur l'histoire du service public, mais le service public a toujours été là, à notre avis, comme soutien au système capitaliste, comme soutien pour permettre au système capitaliste de se reproduire, etc. Donc ça c'est une première approche. Et donc pour montrer par exemple un exemple tout bête qui montre en quoi les transports ont une idée productiviste derrière. Quand le mouvement des chômeurs s'est créé, il y a eu une revendication de gratuité des transports. Le gouvernement, les instances de décision ont plutôt regardé ça d'un mauvais œil, ont pas mis en application ou très peu mis en application cette revendication. Par contre, quand la revendication a été faite de dire on peut pas se déplacer pour aller chercher un travail, là aujourd'hui la NPE met en place avec énormément de difficultés, mais a mis en place tout un arsenal pour avoir la gratuité des transports pour les gens qui vont chercher un boulot, etc., remboursement de train, etc., même si c'est soumis à certaines conditions. Mais ça montre bien que si on leur dit que c'est pour produire, etc., là, il y a une sensibilité qui se crée, etc. Par contre, si c'est pour l'équilibre affectif du chômeur qui peut pas aller dans le sud de la France voir sa tante qui est malade, si tant est qu'il habite dans le nord, ça, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, c'est pas productif, ça produit rien d'aller voir sa tante qui est malade. Par contre, si c'est pour aller chercher un emploi dans le sud de la France, parce que pour aller faire les vendanges ou des choses comme ça, des emplois temporaires, des emplois précaires, là, à la limite, ils vont offrir des opportunités, même si elles sont pas toujours faciles à saisir quand on connaît la paperasse administrative.
On a vu l'année dernière, il y a des conventions nationales qui ont été signées entre AOM, Air France et l'ANPE pour permettre même aux chômeurs d'aller à des entretiens d'embauche à l'autre bout de la France, voire aux Antilles. Ouais. C'est rendre les gens plus mobiles en leur donnant des facilités, mais pour aller bosser, quoi. C'est pas pour faire du tourisme.
Non, mais après, on pourrait prendre même. Et c'est pour ça, après, pour nous, c'est un schéma de liberté de circulation qui est reproduisible à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'il y a eu les mêmes problèmes, par exemple, en Espagne, où il y avait l'immigration équatorienne était le bienvenu pour venir travailler dans les plantations d'oliviers. Mais par contre, après, ils chargeaient de les renvoyer dans leur pays, etc. Donc, on assure la mobilité des personnes si c'est à des fins productivistes.
Qui sont nécessaires pour.
Qui sont nécessaires. Mais après, justement, il y a tout un enjeu. Après, les personnes n'ont pas à être mobiles pour d'autres choses et pour aller manifester, surtout.
Et si on n'a pas besoin d'elles, a priori, on aurait plutôt tendance à les assigner à résidence en développant des arsenaux judiciaires, répressifs, comme on le voit aujourd'hui avec la mise en place progressive de la loi de sécurité quotidienne. Est-ce que tu peux nous dire juste deux mots pour information sur ce qui concerne la question des transports autour de la loi de sécurité quotidienne ?
Ouais, donc la loi de sécurité quotidienne, ce qui a été mis en place, c'est pour une personne qui s'est fait choper dans les transports 10 fois en moins d'un an, risque 6 mois de prison et 50 000 francs d'amende.
Voilà. En euros, ça fait 7 500.
On est passé à l'euro.
Il paraît.
Non, mais ça fait 7 500 euros d'amende. Donc ça, c'est vraiment... déjà, c'est une criminalisation de la fraude. C'est des raccourcis, on associe facilement fraudeurs et vandales, etc. Et donc ils doivent pas pouvoir se déplacer. Et après, donc c'est ça, c'est finalement bon. Après, je pense, voilà, je parlerai à titre personnel. Je pense pas qu'il y aura une explication stricte de cette loi, de tous les cas, etc. Mais je pense que c'est se donner les moyens d'empêcher les personnes dérangeantes de pouvoir se déplacer, quoi, que de faire ça. Après, voilà, quoi. Je pense que ça fait partie d'un arsenal judiciaire qui n'était pas assez étoffé et que justement, quoi. Après, ils mettent de plus en plus de moyens pour permettre de bloquer les personnes, etc.
Ça donne aussi du boulot aux gens de développer des arsenaux judiciaires.
Ouais, ça. ouais, je sais pas. Après, ouais, c'est souvent ça, quoi. C'est aussi, je dirais que c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est-à-dire. On met plus en plus qui s'auto-justifie, quoi. Moi, ce qu'on avait envie de dire aux contrôleurs, c'est de dire, mais sans les fraudeurs, vous auriez pas de travail. Donc, faut nous remercier aussi.
La même question se pose vis-à-vis des travailleurs sociaux et du développement des conditions précaires de vie.
Ouais, non, mais voilà, ouais,
c'est le même niveau de réflexion.
C'est pas...
Donc, dans les mois à venir, le RATP toujours en action, toujours mobile.
Toujours en action. Là, on prépare une action avec Souriez-vous êtes filmé, donc justement sur cette question du sécuritaire. Après, on a un festival des résistances et des alternatives de Paris où là, on va essayer de mettre.
Qui situe à quel moment
L'action de Souriez avec Souriez-vous êtes filmé.
Non.
Le festival des résistances et des alternatives, c'est fin avril, début mai, je crois. C'est juste une semaine avant le premier tour des élections présidentielles et une semaine après le premier tour des élections présidentielles.
Ça dure pendant 10-15 jours.
Ça dure 15 jours, voilà, avec différents. Donc, c'est toujours aussi dans cette volonté du RATP d'essayer de montrer que la question des transports, finalement, est transversale et n'a que de sens si elle est finalement liée à d'autres revendications que seule. Bon, elle a un sens, mais surtout, elle a vraiment un sens fort si on essaye de la mettre avec d'autres personnes et de la mettre en action avec d'autres réalités. Et donc là, ça serait, pour l'instant, l'idée, ça serait de bosser un peu sur la question de la gratuité en général et donc au-delà de la gratuité des transports.
Je te remercie Gilda, qui fait partie donc du réseau RATP